Vous êtes sur RTL.
22h, minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Bonsoir Françoise.
Pauline, je vous appelle Caroline là parce que la dernière fois je vous ai appelé madame et après avec le recul je me suis dit bah, quand même ça fait un petit peu BCBG, pas très convenable avec l'émission.
Non, c'est gentil, mais parce que moi je vous appelle par votre prénom et puis c'est vrai, on est dans le cadre d'une émission de radio, mais sinon dans la vie c'est vrai que on n'appelle pas quelqu'un par son prénom d'emblée. Donc non, je comprends, c'est une preuve de votre éducation, mais c'est vrai que là moi j'avoue que je préfère qu'on m'appelle Caroline.
J'avoue que je n'ai jamais parlé. Donc, là, il est temps parce que j'ai fait le point, j'ai pris mes décisions et donc, je suis un peu plus en paix avec moi-même. Donc, j'ai fait le travail, mais quand même, il faut que je le dise à quelqu'un. Et c'est marrant, ce soir, je me suis décidée parce que, en fait, les deux principales causes ont été dites dans cette émission-là, aujourd'hui. La première, avec cette dame qui poussait sa fille à avorter. Ça, c'était le début de ma première mort, en fait. Et je me souviens d'une chose, c'est sur la table d'opération en Suisse, j'ai crié non, mais personne m'a entendu. Et je suis morte un petit peu, voyez. Quelque chose en moi est mort. Parce que j'étais jeune, immature probablement, mineure. L'époque, c'était pas 21 ans, hein, c'était 21 ans, pardon, pas 18. Hein.
Et votre famille vous a forcé à avoir...
Forcé, c'est pas le mot. J'étais tellement terrorisée par eux que j'avais essayé avec des amis à la fac de le faire. Et quand vous avez parlé que la vie s'accroche, ça m'a liquéfié.
Pourquoi ?
Parce que tout est revenu, bien sûr. Cette douleur
ça vous a
est
fait
toujours
mal,
là.
Oui, la douleur
toujours
est là.
Et ça, il faut bien le savoir quand on fait cet acte. Quand on a le désir, effectivement, qu'on ne peut pas nommer parce qu'il est là, mais pas concret, ça tue. Et les paroles dures de cette femme tuent aussi. C'est ceux de ma famille.
Oui. Ces mots sont restés gravés dans votre tête.
Ça ne blesse même plus. À un moment, ça peut tuer. Et la fin, là... En fait, cette dame qui est, dont le fils
Stéphanie.
Est suicidé.
Mon
fils est aussi atteint d'une maladie psychiatrique.
Oui.
Il s'est déjà défenestré, je vous en ai parlé la dernière fois. Et ça peut arriver. Et une sœur, ma sœur, d'ailleurs, j'en ai qu'une, m'a dit t'as qu'à le mettre à la porte. J'ai une tante qui m'avait dit, d'ailleurs elle vient de mourir du Covid, excusez-moi, quelquefois c'est la rage, m'a dit que je l'abandonnais, enfin que...
Que vous abandonniez qui ?
Mon fils.
Votre
alors
fils,
que non.
Il a quel âge votre fils ?
40 ans.
40 ans.
Oui, il est avec lui, avec moi, bien sûr. Je suis seule, son père lui a... n'a plus donné aucune nouvelle depuis qu'il sait ça, bien entendu. Vous voyez ça...
Oui, ça fait écho douloureusement.
Oui, ça m'a fait écho très douloureusement parce que je l'avais vécu. Et les deux dernières années que j'ai passées à mon travail, je l'ai faite sous burn-out parce que j'étais épuisée avec beaucoup de soucis de travail, de trajet, les ennuis.
Oui, et puis en plus les difficultés que vous rencontrez avec votre fils.
Et en fait, presque la première fois de ma vie, j'ai eu affaire à de la bienveillance. Et je tiens à le souligner, je ne donnerai forcément pas de nom, mais à mes supérieurs hiérarchiques, qui ont très bien compris et qui m'ont soutenue pendant ces deux dernières années, avant que je prenne ma retraite, pour que je tienne le coup jusqu'au bout.
Oui.
Et ça,
ça a dû vous faire un bien fou de voir qu'on comprenait ce que...
La bienveillance, oui, est quelque chose d'extraordinaire. Je ne parle même pas d'amour, mais la bienveillance,
non, mais
c'est extraordinaire et ça m'a beaucoup aidée. Et donc, à un moment, avec tout ça, je les ai envoyés promener. Voilà.
Votre famille, vous
voulez
dire ?
Oui, tout à fait. Oui.
Oui. Oui, à un moment, c'était trop, oui.
Voilà, c'est ce que je disais à Paul. Un jour, on fait la comptabilité. Hein, on est comptable de ce qui s'est passé. Hein. Il y a deux colonnes, hein, comme dans toute comptabilité, hein, les recettes et les dépenses. Ben, les recettes, elles étaient bien maigres. Hein. Mais les dépenses étaient énormes. Et je n'avais plus, burn-out, de toute façon, la force, la volonté. Dieu sait que j'en ai beaucoup. Mais là, mais c'est fou ce burn-out, l'état dans lequel ça met, c'est... Et j'entendais l'autre jour de vos auditeurs qui en parlaient.
Oui,
et au
Luc,
bout de 7 ans, il m'a inquiété parce que...
Non, il disait qu'il en avait, je me souviens, ça m'avait marqué moi aussi, des séquelles. Mais il s'était dirigé depuis, il faisait du yoga, c'est ça, c'est le monsieur qui faisait, c'est ça.
C'est ça.
On voyait qu'il s'était bien remis, alors après...
Quand même. Hein.
Oui.
Bon. Et donc, pour moi, ça a été une question de survie, pratiquement. De ne plus avoir des attitudes acerbes. C'est, voyez-vous, la différence, c'est que quand on est un sujet sensible avec une intériorité qui est importante, on ne peut pas vivre au milieu de gens qui n'en ont pas. Je suis désolée de dire ça.
Mais vous n'avez pas été désolée de dire ça. Je trouve que justement, c'est très juste ce que vous dites. Ça me parle beaucoup. C'est tout à fait ça. Quand je posais la question à Stéphanie, est-ce qu'il y a de la place pour la réalité psychique ? En fait, il y a des familles où il y a même pas de place pour l'introspection, ce que vous appelez l'intériorité. Et s'il n'y a pas d'introspection, il ne peut pas y avoir de remise en question. Enfin, il y a quelque chose. Et donc, allié à de la sensibilité, finalement, on ne parle pas le même langage. Vous êtes face à des personnes où on ne parle pas le même langage. Donc, c'est douloureux de se sentir, au fond, étranger à sa famille. Et je pense que ça parle à beaucoup de personnes.
Oui. C'est exactement le mot, c'est ça. Et je me souviens, étant gosse, déjà, je me disais, mais c'est pas vrai, je dois être adoptée. Je dois être adoptée parce que je me reconnaissais pas, mais dans rien. Ouais. Mais bon, étant gosse, ce sont des...
On se construit
des ressentis,
qu'on peut éprouver.
On ne peut pas analyser ça parce qu'on n'a pas assez d'expérience. Surtout qu'il y a 60 ans, on n'était pas comme les jeunes d'aujourd'hui, aussi ouverts sur le monde extérieur. Surtout dans un tout petit village, c'était très...
Oui, mais déjà, il y avait la perception de... de la solitude et vous vous sentiez incomprise.
Ah, complètement.
Déjà enfant.
Toujours. Oui. Et il n'y avait pas d'amour, pas d'affection. Moi, je sais, quand elle s'en est aperçue, elle m'a dit que j'étais une pute.
Votre mère ?
Oui. Donc, ça m'a...
Oui, ce sont des paroles terribles.
J'étais comme une enfant, en fait, à 18 ans.
Mais oui.
Surtout avec cette chose et...
Oui, mais on voit bien le rapport à la féminité, à la sexualité. Finalement, tout de suite, c'est non, vous êtes enceinte, là, vous êtes une pute. Et c'est extrêmement violent de la bouche de sa mère. Ça monte en fait son rapport à la féminité, à la sexualité, mais bon. Ouais.
Mais ça a complètement changé ma vie, parce que toute ma vie, en fait, j'avais ça.
Mais vous étiez déjà dans un milieu, on va dire, quand même assez, un peu aisé, parce que tout le monde n'allait pas en Suisse pour avorter quand c'était interdit en France.
Oh, mais il fallait surtout pas que les gens le sachent.
Non, mais ça, d'accord. Mais beaucoup de femmes, malheureusement, sont mortes des suites d'un avortement qu'elles faisaient dans des conditions épouvantables parce que c'était interdit, et c'est aussi pour ça que cette loi est passée, parce que c'était terrible, les femmes qui mouraient de ces situations dans des souffrances épouvantables, et même des gynécos disaient on peut pas laisser faire les choses comme ça. Celles qui étaient dans des milieux plus aisés pouvaient partir à l'étranger. Vous voyez, c'était pas donné à tout le monde. Ou là, c'était fait par des médecins, comme aujourd'hui en France. C'est la question que je me posais en vous écoutant.
Oui. Oh, ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont... beaucoup de jeunes femmes qui ont laissé leur vie parce que, bon, voilà. Hein, c'est clair. Il y a aussi dans... quelque chose que je remarque en écoutant les gens, votre émission, d'autres personnes, les peuples, certains peuples quelquefois, la non-reconnaissance de la souffrance, c'est pire que la souffrance. Je me souviens de Deniau, un journaliste, il y a pas mal de décennies déjà, qui disait cela au sujet de l'Afghanistan, déjà. Le peuple kurde, qui lui avait dit « La souffrance que nous vivons n'est rien à côté du fait que les pays, l'Occident, notamment, ne la reconnaissent
pas. » On s'éloigne un peu du... Dites-moi, cette émission a remué beaucoup de choses... en vous, des choses douloureuses, j'espère. Enfin, comment, parce que par rapport à cette histoire, à ces traumatismes, à la relation aussi que vous avez avec votre fils, et c'est très lourd. Est-ce que vous êtes un peu accompagnée, soutenue ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que j'ai toujours vécu ma vie. Oui, en pensant en second plan que je ne valais rien.
Bon, il est peut-être temps que ça change, non ?
Mais ça a changé. Et c'est au niveau, dans mon milieu professionnel, qui...
Ils vous ont dit, là, que vous étiez quelqu'un de bien, simplement en grande souffrance, et qu'il fallait s'occuper de vous, un peu.
Et que, professionnellement, non, ils ont toujours pensé que je pourrais m'en sortir toute seule. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde pense toujours. Mais vous savez, les gens qui sont forts, c'est un peu comme les chaînes. Le jour où ils craquent, ils craquent.
Mais c'est pour ça qu'il faut accepter de l'aide. Vous avez beaucoup de choses à dire. Non, il faut accepter de l'aide.
Oui.
Vous voulez pas. C'est fou parce que là, moi je me dis là, on va devoir raccrocher, c'est en direct. Vous restez avec tout ça. Vous vous rendez compte ce que vous vous trimballez depuis toutes ces années sur le cœur là.
Bon, là, pourquoi compte,
et vous n'allez pas donner raison constamment à votre famille, à votre mère, au fond que vous voulez pas grand-chose, ça vaut pas la peine, on s'apitoie pas sur soi. Et qu'est-ce qu'elle a ? Vous voulez continuer à leur donner raison ? Il serait pas temps un peu de vous prendre par la main et d'aller parler de vous ? Enfin.
Quand j'ai rencontré le père de mes enfants.
Vous voyez à quel point vous avez des choses à dire.
Il m'a traité comme ça et j'ai pas trouvé à redire parce que pour moi c'était normal.
Françoise, quand est-ce que vous allez commencer, vous, à vous traiter avec bienveillance ? Un peu. Et à vous dire j'en vaut la peine ? Et je ne peux pas rester comme ça, à porter toute cette souffrance.
Je commence à apprendre, là, maintenant.
Ben oui, C'est parce que moi, quand j'entends tout ce que vous avez à me dire ce soir, et à quel point il y a des choses, et évidemment, ça me, à la fois, ça me touche, mais aussi ça m'inquiète un peu pour vous, parce que j'entends que cette émission, ce soir, ça a été lourd pour vous à porter. Bon, après, on raccroche, vous restez seule avec ce poids sur le cœur. C'est dommage, parce que vous pourriez, il y a des gens qui pourraient vous aider. Et peut-être en premier lieu déjà l'UNAFAM, une association qui ils ont des, vous connaissez,
oui.
Ce sont des psys qui répondent au téléphone par rapport à votre fils. Vous pourriez trouver une écoute.
Au niveau de ma région, il y a aussi une association que j'avais qui est très très bien.
Des réactions, Paul, au témoignage de Françoise.
Il y a Cathy qui écrit « J'écoute Françoise avec ses blessures anciennes, on ressent de la bienveillance pour les autres,
oui.
Mais dans sa voix. Mais est-ce que vous en avez pour vous-même déjà, dit
oui.
Cathy.
Oui.
Il y a Patricia qui dit « Il est vraiment un temps où l'insupportable n'est plus supportable. Est-ce que cette période de confinement qui nous pousse à plus de recentrage sur soi, est-ce le temps de prioriser ce qui est important pour bien vivre et laisser à la porte ce qui empêche de vivre bien ? En tout cas, merci pour tous les mots de ce soir, de cette émission de ce soir », écrit Patricia.
Oui, c'était une émission très riche, très forte, où, comme souvent, vous parlez avec... sincérité et pudeur à la fois. Il y a Brigitte, je vais lui laisser le mot de la fin pour vous, Françoise. Elle dit, vous savez, ceux qui craquent, c'est ceux qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas parler. Vous, vous y êtes arrivés et vous avez beaucoup de choses à dire. Alors elle ajoute, accordez-vous l'importance que vous méritez. Trouvez un bon thérapeute, un allié. Cela sera très bienfaisant. Commencez par vous-même, vraiment. Vous savez ce qu'on dit ? Charité bien ordonnée commence par soi-même, Françoise.
Exactement.
Alors, vous avez beaucoup de choses à dire. Il est temps, vraiment, de bien vous traiter. Je vous embrasse.
Moi aussi.
Merci d'avoir appelé.
Bonne soirée à tous.
Au revoir, Françoise.
Au revoir.
RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.